Le Flash Info, le podcast de la coopérative nantaise des nouvelles solidarités.
La coopérative, c'est une aventure pour construire un monde encore plus solidaire, où chacun a sa place. Parce que la solidarité, c'est l'affaire de tous. Bien sûr et avant tout la puissance publique, mais aussi les habitants,
les bénévoles, les associations,
les acteurs économiques,
ou encore les autres acteurs de l'intérêt général, comme les bailleurs sociaux.
Le territoire nantais est fort de cette diversité d'engagement.
La coopérative nantaise des nouvelles solidarités, c'est une trentaine d'acteurs qui ont décidé de s'organiser, de créer et de soutenir de nouvelles solidarités en développant la coopération entre nous tous.
C'est mettre au pot commun nos compétences, nos expériences et monter des projets pour lutter contre la précarité et l'isolement social. Ce podcast est la voix de l'un d'entre eux.
Le Flash Info.
Une heure et demie pour s'informer, se sensibiliser sur un sujet autour des solidarités.
Des rendez-vous réguliers.
Un format convivial pour s'outiller avec son sandwich le temps de la pause déjeuner.
Ouvert à toutes et à tous.
Parlez-en autour de vous.
À l'occasion des semaines d'information à la santé mentale, la coopérative a décidé d'y consacrer son deuxième Flash Info intitulé « Parlons simplement de la santé psychique ». Aujourd'hui, nous sommes à Nantes, tout près du quai de Versailles, au 23 rue Adolphe Moitier, dans les locaux de l'association Solipsy. L'association est engagée depuis 40 ans déjà dans la lutte contre l'isolement, l'accompagnement et la promotion de la santé psychique et dans la prévention du risque suicidaire. Il est à peu près midi et demi, la salle se remplit petit à petit, chacune s'installe avec son sandwich ou sa salade à emporter. Au programme aujourd'hui, la présentation du tout nouveau guide en santé mentale de Nantes Métropole, des échanges de pratiques et des partages d'expériences. Mais avant, Guillaume Baudouin, le directeur de Solipsy, a ouvert la discussion par une présentation de ce qu'est la santé psychique et des pistes de réflexion sur la manière de réagir face à une personne en souffrance. Guillaume débute son intervention en précisant le vocabulaire. Il préfère parler de santé psychique plutôt que de santé mentale.
Alors en fait, il n'y a pas réellement de différence entre les deux, ça veut dire la même chose, c'est juste que l'utilisation des mots renvoie à un sens qui va être différent pour celui qui va l'entendre. Et à mon sens, c'est quelque chose qui m'appartient, pour une raison très simple, c'est que la santé mentale, quand on en parle, dans la tête des personnes, ça peut renvoyer à la maladie mentale, donc au côté pathologique, là où la santé psychique renvoie à quelque chose de beaucoup plus général, qui peut nous toucher, qu'on ait ou non une pathologie mentale, qu'on soit ou non en grande ou en moyenne souffrance, c'est quelque chose qui est plus, on va dire, proche de l'ensemble de la population. Et dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, cette question de la stigmatisation et de la déstigmatisation, elle est essentielle. Donc plus on va faire en sorte que les gens prennent en compte leur santé psychique, bah moins ils auront de difficultés à pouvoir accepter la souffrance des personnes qui ont des problématiques de santé mentale ou des pathologies mentales.
Santé psychique, c'est quoi ? De quoi on parle ?
Alors on parle de tout ce qui peut faire souffrance. Ça va d'un, on va dire, un coup de blues, quelque chose qui n'est pas encore dans la dépression, mais on commence quand même à avoir des problématiques dans le quotidien par rapport à notre souffrance, jusqu'à des pathologies qui peuvent nous obliger à être hospitalisés, à avoir des traitements, des accompagnements au long terme. C'est tout ça, la santé psychique. Ça va de comment je me sens, bien et pas bien, jusqu'à comment je vais et comment je peux aller mal, jusqu'à la grande souffrance et la souffrance psychique sévère.
Et ça représente quoi dans la population française ? Est-ce qu'on a des indicateurs aujourd'hui ?
Alors déjà, ça représente 100% de la population française, puisque fort heureusement, tout le monde a une santé psychique. Dans la majorité des cas, ça va. Pour la grande majorité de la population, ça faut quand même le souligner, c'est une bonne chose, même si les chiffres sont en augmentation. Ce que ça représente, c'est à peu près 13 millions de personnes en France, un Français sur 5. Sur ces 13 millions, 3 ont des problématiques sévères, mais donc ça veut quand même dire que 10 millions ont des problématiques non sévères, donc ça peut nous toucher tout un chacun. Puis ce qui est important, c'est d'avoir aussi en tête que c'est la troisième cause d'accompagnement médical, hein, derrière les cancers et les problématiques cardiovasculaire, et que ça représente également la plus grosse dépense de l'assurance maladie, toutes dépenses confondues. C'est pas rien, c'est pas quelque chose d'anodin dans notre société.
Aujourd'hui, pour ce Flash Info, vous avez choisi de vous intéresser aux aidants, à l'entourage, finalement, à cette question. Comment réagir, comment faire face à quelqu'un qui serait en souffrance psychique ?
Oui, en fait, l'idée de ce focus, c'était de ne pas se centrer sur les gens qui sont en souffrance, parce que ça, finalement, c'est quelque chose qui appartient à chacun. Chacun va avoir sa souffrance, l'expression de sa souffrance, mais plutôt de faire en sorte de pouvoir outiller les personnes qui vont accompagner ou qui vont être à l'écoute de personnes en souffrance, pouvoir les outiller pour qu'ils puissent eux-mêmes se sentir bien dans la relation à l'autre. Parce qu'en fait, si on a quelqu'un qui va être en capacité d'aider, qui va se sentir en sécurité, qui va se sentir en confort, bah, de fait, sa capacité à aider, elle va être plus importante et elle va avoir un effet, un impact plus bénéfique que si la personne est elle-même en difficulté. D'ailleurs, dans cette question de santé psychique, très souvent, on ne pose pas la question aux gens pour comment ils vont et comment ils vont vraiment, parce qu'on ne veut pas avoir de réponse. Parce que si jamais on avait une réponse qui ne correspondait pas à quelque chose de positif, ben on serait bien embêté de pouvoir savoir quoi répondre. Donc l'idée, ça a été de travailler autour des questions de relations d'aide et de réfléchir avec les personnes comment on peut faire pour être dans une relation d'aide confortable.
Alors comment faire ?
Alors, ce que je propose, hein, c'est pas miraculeux, mais en tous les cas, c'est une organisation de la pensée et une organisation de choses que les gens savent pertinemment. Et ça s'articule autour de quatre piliers, hein, les quatre piliers de la relation d'aide, qui nous permettent de venir regarder la relation à l'autre et encore plus la relation à l'autre en situation de souffrance de manière différente. Le premier de ces piliers, c'est qu'on n'est pas des super-héros. Les super-héros, ça n'existe pas, donc on n'a pas de super-pouvoir, ce qui veut dire que face à l'autre en souffrance, eh bien, on ne peut jamais se prévaloir du résultat. On ne peut jamais avoir une obligation de résultat, mais seulement, si on le souhaite, une obligation de moyens. Quand on est dans la relation d'aide autour de cette question de la souffrance psychique, on ne peut jamais se prévaloir du résultat, ce qui fait qu'on ne peut pas être un super-héros, en tout cas pas se charger de cette dimension du super-héros, parce qu'on n'a pas de super-pouvoir.
Et en quoi le fait de ne pas imaginer que nous serions des super-héros aide la personne qui serait en souffrance?
Ben en fait, ça aide surtout la personne qui est à l'écoute et ça va aider la personne qui est en souffrance parce que à la fois, ça permet de ne pas se charger d'une obligation de réussir et puis surtout, si on ne se charge pas de cette obligation de réussir, on va écouter de manière différente parce que si on aborde l'autre en ne pensant qu'à il faut que j'y arrive, il faut que je trouve une solution, il faut que je puisse l'aider, il faut que ce soit moi qui puisse être en capacité à pouvoir lui apporter une réponse, ben quand on s'est posé toutes ces questions-là, on a arrêté d'écouter l'autre. Et en fait, l'axe principal et l'intérêt principal de la relation d'aide, c'est de pouvoir être à l'écoute de l'autre, ce qu'il a à nous dire. Et si on aborde l'autre en se disant bah, « je vais faire comme je vais pouvoir, je vais bien voir ce qu'il va me dire et puis on verra ce qu'on fera avec », eh bien du coup, on est beaucoup plus ouvert et ça permet d'avoir une relation qui instaure la confiance.
Autre pilier qui découle du premier, c'est être conscient de ses limites.
Oui, exactement. En fait, comme on n'est pas un super-héros, qu'on n'a pas de super-pouvoir, on a des limites. Et ça, il faut pouvoir en avoir conscience. Et dans la relation d'aide, dans la relation à l'autre, avoir conscience de ses limites, bah, ça nous permet de pouvoir savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, pourquoi on aurait besoin d'aide, on aurait besoin d'accompagnement. Et puis, ça permet aussi de pouvoir instituer une relation qui n'est pas une relation de toute puissance de l'un par rapport à l'autre, parce que pouvoir dire qu'on ne sait pas, qu'on n'y arrive pas, qu'on ne comprend pas, bah, ça montre aussi qu'on a soi-même des failles, et du coup ça permet aussi à l'autre de se rendre compte qu'il n'est pas seul à imaginer avoir des failles, parce qu'une des difficultés principales des gens qui sont en situation de souffrance psychique, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils sont tout seuls à vivre ça, que la terre entière se débrouille beaucoup mieux qu'eux et qu'ils n'y arrivent pas, alors que dans la réalité, on est tous en difficulté à un moment dans notre vie, on est tous avec des problématiques, des choses qu'on n'arrive pas à résoudre, à régler, et le fait de pouvoir dire à quelqu'un bah, « je sais pas, j'y arrive pas, je vais demander de l'aide, je vais essayer de trouver la solution ailleurs bah, », ça permet d'ouvrir les choses et de poser un peu l'humilité dans la relation à l'autre.
Si vous insistez sur cette question des limites, est-ce que c'est parce que vous avez la sensation que c'est quelque chose que notre société élude un petit peu facilement ?
Ben oui, parce que dans la société, on a un peu trop tendance à faire en sorte pas qu'on puisse tous réussir, qu'on arrive tous à faire tout ce qu'on a envie de faire, qu'on est parfait, qu'on n'a pas de failles, pas de difficultés, alors même que la vie, bah, c'est parfois une ligne droite, parfois un fleuve très sinueux. On a chacun nos propres failles, nos propres souffrances, nos propres difficultés, et plus on va en avoir conscience, plus on va en prendre conscience, plus ça va créer une relation à l'autre qui va permettre de créer une relation de confiance.
Troisième pilier, on est toujours dans la relation, mais cette fois-ci avec d'autres.
En fait, le troisième, il découle de fait comme le premier du second. On n'a pas de super pouvoir, on n'est pas des super-héros, on ne peut pas tout faire. Donc on a des limites, il faut en avoir conscience. Et comme on a des limites, qu'on n'a pas de super pouvoir, ben, on ne peut pas être seul dans la relation à l'autre. Et ça, c'est encore plus vrai dans la relation à un autre qui est en situation de souffrance psychique, à la fois parce que ça peut nous faire souffrir, nous-mêmes, ça peut nous mettre en difficulté, nous enfermer dans cette relation à l'autre. Et du coup, plus on va s'appuyer sur d'autres, plus on va demander conseil, plus on va essayer de trouver des solutions à l'extérieur, bah, plus on va faciliter notre propre capacité à aider. Et puis par rebond, ça va aussi ouvrir les perspectives pour les autres, ceux qui sont en souffrance psychique, parfois ont tendance dans leur mode de fonctionnement, et c'est ce qui fait souffrir, à s'enfermer dans leur propre souffrance et à ne pas voir les compétences qu'ils ont, qui sont toujours là, hein, même quand on est en souffrance, et puis pas voir les ressources qu'il peut y avoir à l'extérieur pour faire face à cette souffrance. Donc plus on va ouvrir les choses, plus on va faire en sorte de s'appuyer sur d'autres, bah, plus ça va nous ouvrir des perspectives et ouvrir des perspectives à la personne qui est en situation de souffrance.
Et le dernier pilier, il tourne autour de la bienveillance. En fait, pour tous et toutes.
Pour toutes et tous. C'est-à-dire que le dernier pilier, en fait, c'est quelque chose d'assez simple, c'est de pouvoir se faire confiance. Se faire confiance parce que dans la relation à l'autre, même s'il est en situation de très grande souffrance psychique, finalement, ce qu'on fait, quand c'est fait avec attention, quand c'est fait avec bienveillance, quand c'est fait avec bon sens, bah, ça marche. Ça marche parce que chacune, chacun, on a envie, on souhaite qu'on fasse attention à nous. Donc, vous imaginez bien quelqu'un qui est en situation de souffrance psychique, bah, quand on fait attention à lui, ça lui fait du bien. Alors, ça veut pas dire accompagner, ça veut pas dire se transformer en psychologue ou en psychiatre, ou en professionnel de la santé pour toutes les personnes qu'on accompagne, mais ça veut au moins dire pendant un temps créer du lien, créer une relation qui va permettre à la personne de se sentir écoutée, bah, ça fait avancer, ça fait du bien. Et c'est sur cette base-là qu'ensuite on pourra orienter, accompagner, diriger vers des structures spécialisées si jamais il y avait besoin, parce que de fait, bah, on a tous une capacité à pouvoir aider et c'est vraiment l'affaire de tous, cette question de la santé psychique.
L'objectif de ces rendez-vous, c'est de déstigmatiser, de lever le tabou de la santé psychique, enfin lever le tabou de la souffrance psychique. Selon vous, quels sont les leviers à notre disposition ?
Bah, les leviers, ils sont relativement simples. En fait, c'est de pouvoir en parler simplement, de faire en sorte que ce discours, en tous les cas, cet abord de la santé psychique soit pas réservé aux professionnels, parce que dans la réalité, comme je disais précédemment sur le fait que ce qu'on fait, c'est bien, la plupart du temps, quand on parle de ce qui fait souffrir, c'est pas à des professionnels, mais c'est à des proches, à des amis, à de la famille. Et du coup, c'est important que ces proches, ces amis, cette famille puissent se sentir à l'aise dans le fait d'écouter ce qui peut faire souffrir. Et puis, le levier le plus important, bah, c'est justement d'ouvrir ce dialogue. Plus on va ouvrir le dialogue autour de ce qui fait souffrir, plus on va rendre facile, accessible la capacité à parler de ce qui fait souffrir, bah moins on sera dans la stigmatisation. Et ça, c'est vrai aussi quand ça va bien. C'est-à-dire que plus on sera attentif à quand ça va bien, à ce qui fait qu'on se sent bien, qu'on est en bonne santé, qu'on n'a pas de difficultés, bah plus on aura de capacité à pouvoir faire face aux situations dans lesquelles ce sera plus compliqué, parce que de fait, c'est là-dessus qu'on s'appuiera pour les dépasser.
Guillaume Baudouin nous rappelle que nous sommes tous concernés par la santé psychique, qu'elle fait partie intégrante de notre santé globale. C'est aussi un des objectifs du tout nouveau guide métropolitain en santé mentale. Il existe en version papier ainsi qu'en ligne sur le site de Nantes Métropole. Présentation par Laurence Blin, chargée de projet en santé mentale à la direction de la santé publique de Nantes Métropole.
Ce guide fait suite à un guide qui existait déjà sur la ville de Nantes et il a pour vocation de répondre aux besoins des habitantes et habitants pour leur permettre de mieux comprendre ce qu'est la santé mentale, pour les aider à en prendre soin et à mieux s'y retrouver pour accéder aux dispositifs ou aux acteurs qui pourront les aider, les accompagner ou les soigner. C'est un premier guide de santé mentale métropolitain. Il s'inscrit donc dans la continuité du guide nantais et sa conception, évidemment, s'est appuyée sur un travail de diagnostic effectué par les professionnels de la direction santé publique en 2024 et qui s'est construit en lien pour ses contenus avec des acteurs engagés, les professionnels, les bénévoles, les personnes concernées, tout en s'appuyant également sur différents supports d'information sur la santé mentale.
Et alors à qui s'adresse ce guide ?
Il s'adresse à tout le monde, quelle que soit la situation, quel que soit l'âge, pour apporter des informations utiles et permettre d'avoir des liens pour aller plus loin quand les personnes en ont besoin.
Où est-ce qu'on va pouvoir se le procurer ?
Ce guide va être disponible dans les mairies, les associations, les centres socio-culturels, les espaces du soin, les espaces du social. Il a vocation à être très largement diffusé. Le guide santé mentale pourra également être utilisé comme support pour des échanges ou à des temps d'information.
Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce guide ?
Qu'est-ce qu'on y trouve ? Eh bien, on y trouve des éléments pour expliquer, pour informer, pour aider, orienter les habitantes des communes de Nantes Métropole. De quoi on parle quand on parle de santé mentale ? Quels en sont les déterminants ? Comment on prend soin de sa santé mentale ? L'enjeu, ça va être de bien identifier les bonnes sources et les ressources, pour préserver son équilibre, favoriser l'accès aux droits et aux soins, mais aussi de lutter contre les inégalités sociales de santé, contre la discrimination ou la stigmatisation.
À l'issue de ces deux présentations, nous nous sommes tous retrouvés pour continuer à échanger, cette fois autour d'un café.
Qu'est-ce que j'ai appris ? Qu'on est tous concernés en fait et qu'on a tous eu des problèmes, quels que soient. Et je crois que ça m'a aidé à comprendre que moi-même je suis concernée et que voilà quoi.
Déjà la découverte de Solipsy que je connaissais absolument pas, voir toutes les activités là, qui vont être menées autour du lien social. Et puis oui, mener une réflexion globale avec les partenaires sur comment on fait sur un territoire quand on est face à quelqu'un qui souvent va aussi dans plusieurs structures. Enfin, du coup, il y a peut-être quelque chose à travailler dans les assos partenaires du quartier, quoi.
Je trouvais que c'était intéressant, ça reposait les bases d'une posture individuelle vis-à-vis de l'autre. Et je m'attendais pas forcément à ça. Et en fait, c'était vraiment très concret. Je ressors de ce flash info avec des éléments concrets à me réapproprier dès cet après-midi. Ça donne quand même des clés et ça donne envie de creuser encore plus et d'aller plus loin.
Le Flash Info est un podcast de la coopérative nantaise des Nouvelles Solidarités réalisé par L'Onde Porteuse.